Bonjour et bienvenue à Famille à la Une. Ici Maude Goyer et voici ce qui a retenu mon attention dernièrement. Bonne écoute! Est-ce que vos enfants vous demandent souvent pourquoi? Je me souviens, à 3 ou 4 ans, les deux miens posaient une tonne de questions. J'en étais presque tannée parfois. Je vous annonce qu'adolescent, cette période de questionnement revient de façon moins intense tout de même, j'en conviens. Il n'en demeure pas moins que leurs questions, anecdotiques ou existentielles, m'ont forcé à réfléchir à la façon dont nous, les adultes, les parents, répondons. Pourquoi répondre toujours rapidement avec assurance? Pourquoi ne pas plutôt répondre simplement « je ne le sais pas » ou encore « trouvons la réponse ensemble » ? Ce concept a un nom, c'est l'humilité intellectuelle. Des chercheurs de l'Université de Californie se sont penchés sur ce sujet. Ils ont découvert que l'humilité intellectuelle, ou le fait de dire à son enfant qu'on ne connaît pas la réponse à sa question, favorise l'ouverture d'esprit, la curiosité et même la motivation et l'engagement. Ces habiletés les aideront non seulement dans leur parcours scolaire, mais dans la vie en général. Dire « je ne le sais pas » va aussi inciter les enfants à nous imiter et à faire preuve de franchise et de lucidité dans des situations où, justement, ils ne le savent pas. Les recherches démontrent aussi que d'avoir des réponses à tout peut faire grimper les attentes de façon irréaliste. En effet, qui peut tout savoir? C'est donc la bonne voie empruntée, la chose noble à faire. On a souvent parlé en éducation de l'importance de dire non à ses enfants pour les sensibiliser à l'importance des limites. Mais les mots « je ne le sais pas » sont tout aussi puissants et il est temps qu'on les privilégie dans nos échanges avec nos enfants. Un article du New York Times a attiré mon attention dernièrement. Il aborde la question de l'accompagnement à la naissance, et je ne parle pas de l'accompagnement par une sage-femme ou une accompagnatrice à la naissance, mais bien du partenaire de la femme qui accouche. Comment les conjoints ou les conjointes peuvent-ils être de bons accompagnateurs au jour J? Le journaliste qui a rédigé l'article a dressé une petite liste des bons gestes à poser, et je vous en énumère quelques-uns. D'abord, parler de ses intentions mutuelles. Bref, établir à quoi on s'attend l'un de l'autre dans une situation aussi imprévisible. C'est comme mettre un petit filet de sécurité psychologique autour de soi et de son partenaire. Ensuite, suivre un cours sur la naissance avec un esprit ouvert, sans jugement et sans idées préconçues. Établir un plan pour les semaines qui vont suivre l'arrivée de bébé. Encore là, en restant ouvert et flexible. On le sait, on peut avoir les meilleures intentions du monde, mais que rien ne se passe comme prévu. Parler de ses priorités demeure tout de même une bonne stratégie. Aussi, discuter des rôles de l'un et l'autre dans l'alimentation de l'enfant, que bébé soit allaité ou nourri au biberon. Dans les deux cas, les deux parents peuvent faire leur part car il faut se lever, changer la couche, faire passer le rôle, soulager les coliques. Parce qu'au fond, nourrir son bébé, c'est jamais juste nourrir son bébé. Rester à l'affût de son niveau de stress, en parler et poser les bons gestes pour faire baisser la pression. Et finalement, un point souvent négligé, s'ouvrir sur notre vie sexuelle après l'arrivée de bébé. Parce que ça change, bien sûr, du moins pour quelque temps. Et c'est encore trop souvent tabou. Au fond, je constate que le dénominateur commun de tous ces points, c'est la communication. Encore une fois, la communication au sein du couple, ben oui, c'est la clé. En terminant, je vous laisse avec une suggestion lecture. L'album « Blanche comme un drap », signé par Chloé Varin et illustré par Rémi Allen, est d'une beauté sans nom, tout en étant bouleversant. C'est l'histoire de Blanche, la fille unique d'un couple très occupé par le travail, avalé par son téléphone, ravagé par le quotidien. Blanche se sent transparente et doucement, elle va parler de son mal-être et revendiquer sa place. C'est un livre qui parle de solitude, mais aussi d'affirmation de soi et d'autocompassion. Publié aux éditions Fonfon, ce livre de 32 pages s'adresse aux enfants de 5 ans et plus et il coûte 21,95 $. Bon, ça doit faire plus de 5 minutes que je vous parle, il faut que je me sauve. Merci d'avoir été là et à bientôt.